Au menu de notre club aujourd'hui, vous ferez connaissance avec un ancien député britannique qui veut convaincre les parlementaires français de se mettre à la méditation. Nous apprendrons également comment apprendre des erreurs des autres, mais également comment vivre comme un animal. Je vous présente mes invités dans un instant. Le prix exorbitant des médicaments dans le viseur de l'association Médecins du Monde, c'est aujourd'hui à la une de la science. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, avec une campagne choc nommée le prix de la vie et qui, malgré son interdiction dans le métro et sur les affichages publics, fait son chemin sur le web, les médicaments qui rapportent sont à la une dans un instant.
Et c'est Stéphanie Texier qui pilote ce club préparé par Emmanuel Fournier avec Dylan Bainer.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Des députés donc qui méditent des erreurs qui nous en apprennent beaucoup et puis une expérience pour vivre comme un animal, sujet de notre club avec mes invités, avec mon studio Aline Richard pour le site The Conversation France et Guillaume D'Alessandro pour le magazine Oui Demain. Bonjour à tous les
deux.
Bonjour.
Et puis nous sommes en duplex de Lyon avec la neurobiologiste Martine Meunier. Bonjour à vous.
Bonjour à vous tous.
Aline Richard, aujourd'hui donc sur le site The Conversation France, vous avez invité Martine Meunier à écrire sur la façon dont on peut se servir des erreurs des autres.
Absolument, on est tout à fait intéressé par les neurosciences et la cognition, qu'elles soient humaines et animales. Et justement, Martine a fait une expérimentation pour montrer que contrairement à la Vulgate, on n'apprend pas de ses propres erreurs, mais on apprend des erreurs des autres.
Martine Meunier, donc ça c'est la conclusion de cette expérience que vous avez menée?
Oui, en effet, c'est une expérience où on a fait travailler dans la même tâche à la fois des singes macaques et des hommes et des femmes. Mmh. Et on a comparé leurs performances quand ils apprennent de leurs propres erreurs à celles qu'ils ont quand ils doivent apprendre des erreurs des autres.
Voilà, et tout ça se voit dans le cerveau, comme on va en discuter avec vous. Guillaume D'Alessandro, vous allez nous raconter comment Charles Foster, un enseignant d'Oxford, s'est glissé dans la peau de plusieurs animaux qui vont du renard à la lamproie. C'est la première fois qu'une telle expérience naturaliste va aussi loin.
Ah, c'est une expérience particulièrement riche parce qu'il va explorer ce qu'il appelle les animaux de la terre. Ce sera le blaireau, les animaux de l'eau, ce sera la loutre, ouais. Les animaux de feu. Alors, il a décidé que le renard était un animal de feu et même les animaux de l'air avec le martinet. Et en fait, il va faire un changement d'échelle pour utiliser les perceptions humaines pour les mettre dans les contextes d'un animal. Comment, à quoi ressemble la réalité lorsqu'on est un blaireau.
Voilà, et vous racontez tout ça de façon extrêmement intéressante et drôle dans Oui Demain. On va en discuter avec vous dans quelques minutes. Et puis vous entendrez donc l'entretien que j'ai eu hier matin avec Chris Horan. C'est un ancien député britannique qui est parvenu donc à faire méditer plus de 150 parlementaires pendant plusieurs semaines. Il était à Paris mercredi pour sensibiliser les députés français à la pratique de la méditation. Et il va nous raconter pourquoi il veut promouvoir la pleine conscience dans toute l'Europe. Vous nous rejoignez avec vos messages sur La Tête au Carré à radiofrance.com et puis également sur Twitter et Facebook. Médecins du Monde part en campagne contre les prix prohibitifs de certains médicaments. La maladie est-elle devenue un juteux marché? Question posée à la une de la science.
Le Glivec contre la leucémie, 37 000 euros par an. Le Solvadi contre l'hépatite C, 41 000 euros. Et le Keytruda contre le mélanome, autour de 100 000 euros.
Et bien placé, un cancer peut rapporter jusqu'à 120 000 euros. Une leucémie, c'est en moyenne 20 000% de marge brute. Voici quelques-uns des slogans donc de la campagne « Le prix de la vie » lancée en début de semaine par Médecins du Monde. Bonjour Olivier Maguet.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la campagne « Prix des médicaments » pour Médecins du Monde. Et puis par téléphone pour en parler, nous sommes également avec notre médecin blogueur Dominique Dupagne. Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Olivier Maguet, ce débat sur les prix des médicaments n'est pas nouveau. Pourquoi cette campagne maintenant? Quel a été le déclencheur pour Médecins du Monde?
Un point de rupture. Vous savez, quand on fait une campagne, c'est parce que on n'a pas été entendu depuis quelques années sur la dérive du prix du médicament. Et pour ce qui nous concerne, nous, Médecins du Monde, les médicaments contre l'hépatite C, qui, vous le savez, il y a 2 ans, ont connu une véritable révolution, des médicaments qui sont effectivement efficaces, mais qui ont clairement révélé ce point de rupture dont je vous parlais. De quel ordre est-il, ce point de rupture? 2 ordres. Le premier, c'est que nous sommes clairement face à une unique logique de maximisation du profit. Soyons clairs, Médecins du Monde n'est pas contre le profit, contre la juste rémunération du travail ou de l'investissement. Ça n'est pas le propos. Mais nous faisons une différence entre la juste rémunération de l'investissement et du travail et le hold-up de la sécurité sociale. Ce qu'a révélé très clairement le médicament dont nous parlions tout à l'heure à 41 000 euros. De fait, les lignes de traitement aujourd'hui contre le virus de l'hépatite C sont entre 44 000 et 66 000 euros selon les combinaisons pour des coûts de production estimés variant entre moins de 100 euros à 200 euros. Deuxième point de rupture, et je conclurai là-dessus. Derrière ça, donc un changement de paradigme économique qui s'appuie aussi sur de plus en plus la mise en avant des coûts potentiel futur évité pour la sécurité sociale. Ouais. Dit autrement, pour que nos auditeurs et nos auditrices comprennent bien, c'est comme si aujourd'hui on vendait un cachet d'aspirine 1000 euros parce qu'éventuellement il va réduire les risques cardiovasculaires à l'avenir. Ça, évidemment, personne n'accepterait. Voilà ce qu'a révélé l'histoire du Sauvalie et voilà ce qui nous a fait réagir après avoir pendant plus de 2 ans essayé de convaincre les pouvoirs publics que nous étions sur la fausse route. Quand vous n'êtes pas entendu et que vous êtes une association responsable qui s'inscrit dans un cadre républicain, ce qui est le cas de Médecins du Monde, on cherche à faire de la pédagogie d'abord, bien quand vous n'êtes pas entendu, vous prenez à témoin l'opinion publique, qui en l'occurrence sont aussi des assurés sociaux, c'est notre bien commun tout cela, pour essayer de se faire un peu plus entendre.
Et c'est de l'argent public tout ça aussi.
Et c'est donc l'argent public, la cotisation sociale et l'impôt, effectivement. Ouais. C'est intéressant d'ailleurs votre remarque, parce que on entend souvent parler de logique de marché. Certes, nous ne l'ignons pas, le médicament est un marché, le marché des produits de santé. Mais c'est un marché atypique, parce que la solvabilité est assurée par l'argent public.
Il y a aussi une logique d'économie quand même aussi en ce moment, beaucoup. Donc on s'étonne que vous ne soyez pas entendu,
Dominique Axel. Dupagne, est-ce que les labos pharmaceutiques sont devenus seulement des machines à bénéfices alors ?
Elles l'ont toujours été, ce sont des entreprises commerciales. Elles ont pu dire à un moment, on veut un monde meilleur, mais l'affaire du Solvadi dont on parle là, en effet, constitue une rupture. C'est fou de penser quand même qu'une industrie qui sauve des centaines de milliers de vies, moi, sans médicaments, je serais un charlatan, je pourrais pas soigner les gens, et qu'une industrie qui a un tel potentiel d'image positive arrive à se retrouver plus détestée que les marchands de canons et de missiles. C'est complètement fou. Il y a une espèce de maladresse aussi de communication. Je veux dire, quand une société comme le laboratoire Gilead dit « je vais vous vendre mon médicament 50 000 euros parce que je pense que c'est le maximum que vous êtes prêt à payer et que je peux vous soutirer », clairement, ils l'ont dit comme ça, sans un accroc dans la voix. Hein. C'est pas une déduction, c'est ce qu'ils ont dit. Nous, on a payé la start-up qui possédait le médicament 11 milliards de dollars. Alors vous comprenez, maintenant, il faut qu'on se refasse. Donc on va vous vendre ça, le prix maximal que vous pouvez payer en nous justifiant sur le nom d'IRM évité, de journée d'hospitalisation évitée. Et c'est là que le LEM, qui a été très sensibilisé à cette campagne, c'est le moins qu'on puisse dire, le LEM, c'est le syndicat des entreprises pharmaceutiques, mais aurait dû réagir. Quand un de ses adhérents se permet un cynisme pareil, vis-à-vis du prix d'un médicament et des malades, bah c'est le rôle quand même d'une association représentative de dire oui, il faut quand même faire un petit peu attention à ce qu'on dit. On est là pour gagner de l'argent, mais on n'est pas là non plus pour racketter la sécurité sociale française.
Et qu'est-ce qui cloche, Olivier Magui, dans ce processus de négociation avec les laboratoires pour fixer les prix ?
Mais ce qui cloche, c'est l'État, parce qu'en fait, on a commencé effectivement à parler des laboratoires. Dominique Dupagne l'a rappelé, ce sont des entreprises commerciales. Oui, c'est vrai, mais de nouveau, des entreprises commerciales qui écoulent leurs produits sur un marché qui est atypique pour les raisons que j'ai évoquées sur sa solvabilité. Et c'est pour cela que tous les gouvernements, tous les États sont dotés d'outils de régulation pour essayer de mettre de l'ordre là où il y a du désordre et de la dérive. Et notre cible, finalement, dans cette campagne, ça n'est pas tant le labo est tapé à bras raccourcis dessus, parce que bien d'autres l'ont fait, et ça n'est pas notre propos, d'autant que, comme le soulignait le collègue, nous-mêmes, nous sommes prescripteurs de soins et nous avons besoin de producteurs de soins. Donc nous avons besoin de laboratoires pharmaceutiques. Ce que nous interpellons, c'est l'État qui a failli dans sa mission de régulation. Et c'est bien ça, l'enjeu de la campagne.
Dominique Dupagne ?
Oui, c'est un peu compliqué, parce que il y a un moment où ce fameux comité économique des produits de santé, espèce de truc un peu obscur, où se fixait le prix des médicaments en France, se fixe toujours le prix des médicaments en France, donnait des prix extrêmement élevés à des laboratoires comme Servier pour des produits qui pourtant n'avaient rien de très innovant. Donc là, ça sentait un petit peu la cuisine et la faiblesse face à des intérêts économiques. Mais ce qui s'est passé quand même avec le Sovaldi, c'est un laboratoire qui, sur le plan international, met le couteau sous la gorge des gouvernements et leur dit, voilà, notre produit, c'est 60 000 ou 80 000 euros par personne à prendre ou à laisser. Et là, je dirais que le gouvernement a résisté autant qu'il a pu. Enfin, en tout cas, le CEPS a résisté autant qu'il a pu. Il a traîné des pieds avant de donner un prix de remboursement parce qu'il ne voulait pas payer cette somme-là. Mais il y avait une très forte pression des patients qui disaient « Mais nous, on a notre cirrhose qui progresse, il faut absolument fassiez quelque chose pour nous. » Et finalement, dans cette discussion, le gouvernement était plutôt l'allié, je dirais, dans cette affaire précise, des patients contre le laboratoire en essayant de lui faire baisser le prix le plus possible en le menaçant de le faire lanterner jusqu'à ce qu'un concurrent arrive avec un autre produit moins cher. Donc là, je dirais que c'est pas trop la faute, à mon sens en tout cas, c'est pas trop la faute de la France qui aurait pu en effet refuser définitivement la commercialisation de ce produit. C'est simplement un racket international qui nécessiterait peut-être que les gouvernements s'unissent pour résister à des pressions pareilles.
Olivier Maguet.
Oui, très court. Oui, non. C'est-à-dire que le CEPS, à sa façon, a essayé de résister. Il existe un instrument légal qui est prévu au Code de la propriété intellectuelle, l'article L613-16, qui permet au gouvernement d'émettre ce que l'on appelle une licence d'office. C'est utiliser du générique pour produire à bas coût. Il avait cette arme, il ne l'a pas utilisée pour faire baisser les prix.
Comment expliquez-vous que l'État ne vous entende pas alors qu'on est dans une période drastique d'économie et de toutes parts?
Poser la question à Marisol Touraine.
Vous avez une idée?
Écoutez, moi non, je n'ai pas d'idée à ce stade-là. Donc comme l'État ne nous entend pas, nous allons nous adresser dès la semaine prochaine aux législateurs qui votent aussi le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et c'est bien une des questions essentielles que vous posez, monsieur. Nous attendons des réponses très claires sur des questions très simples comme celle-là.
Dernière question, combien de signatures sur votre pétition en ligne là pour le moment?
Écoutez, quand je suis parti de Médecins du Monde tout à l'heure pour venir à votre émission, nous étions à plus de 177 000. Donc voilà, ça progresse bien au bout de un peu plus de 4 jours et demi de mise en ligne de la pétition.
Vous allez dépasser les 200 000 à la fin
et
du week-end.
Nous souhaitons que 200 000 assurés sociaux, je dis bien ce sont des assurés sociaux, c'est leur bien commun, se manifestent pour entendre les réponses aux questions que nous posons à la ministre de la Santé.
Merci à tous les deux. Merci Dominique Dupagne, à très bientôt.
À bientôt.
Olivier Miguet, merci. Axel, bon week-end.
Merci.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité. Des protéines peu dégradées retrouvées dans des micro-organismes fossilisés vieux de 2 milliards d'années. Découverte inespérée puisque les molécules issues du vivant sont très fragiles et ont tendance à se dégrader rapidement. Étude réalisée par des chercheurs français, prochainement publiée dans Nature Communication et qui prouve au contraire que dans certaines conditions géologiques et chimiques particulières, donc des protéines peuvent traverser le temps. Les scientifiques estiment qu'il sera bientôt possible de reconstituer la biologie des plus anciennes formes de vie sur Terre. Une météorite qui ne ressemble en rien à celle déjà répertoriée, découverte en Suède, baptisée Eusterplana 065. Elle a été retrouvée dans une ancienne carrière de calcaire au milieu d'autres météorites de type chondrite L, les plus couramment trouvées sur Terre. Découverte qui permettrait de reconstituer une partie de l'histoire du système solaire. Et puis les chats comprennent-ils les lois de la physique? Des chercheurs de l'université de Kyoto au Japon se sont amusés à agiter des boîtes vides ou pleines devant 30 félins. Et en focalisant leur attention sur les boîtes pleines qui émettent un bruit quand on les secoue, la plupart des chats ont démontré, selon les chercheurs, leur compréhension d'une loi physique très simple, le principe de cause à effet. Ils sont en effet capables de prédire l'existence d'un objet invisible simplement parce qu'ils l'ont entendu. Cette capacité expliquerait en partie pourquoi les chats sont d'aussi bons chasseurs. Allez, le club dans un instant.
See you twerk, little Sally. Let me see you work, little Sally.
Et c'est Bibi Borelli avec Sally.
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
Et dans notre club aujourd'hui, des députés qui méditent, un homme qui a vécu comme des animaux, et puis les erreurs des autres qui peuvent nous être très utiles. Et c'est avec ce premier sujet que nous commençons avec notre partenaire, le site The Conversation France. Aline Richard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour ce site de partage des savoirs, on l'avait présenté il y a un mois, qui donc, je le rappelle, invite les universitaires ou les chercheurs à vous écrire des articles. C'est le principe. Hein.
Absolument, site à but non lucratif, pas de publicité, et des articles de vulgarisation dans tous les domaines, politique, science, sport, culture, écrits effectivement par des universitaires ou des chercheurs.
Et donc tout est libre et republiable, hein. C'est aussi le principe de The Conversation.
On peut republier tous les articles à condition de les prendre dans leur intégrité. Vous pouvez les republier si vous avez un blog, si vous avez un site d'information comme franceinter.fr, etc.
Alors vous avez repéré Martine Meunier et ses travaux, hein. Ça vous a intéressé justement de lui proposer un article.
The Conversation France est très intéressé par les neurosciences en général. Hein, c'est des sujets qui fascinent. Le cerveau humain et le cerveau des animaux, on va peut-être en parler tout à l'heure, est quelque chose d'absolument fascinant. Et c'est intéressant, comme l'a fait Martine Meunier et sa co-auteure qui s'appelle Elisabetta Monfardini, je vais y arriver, c'est très intéressant de se pencher sur des comportements que nous avons, que nous ne remettons en général pas en cause dans le quotidien, et qui finalement révèle des tas de choses.
Oui, et justement, Martine Meunier, votre article, vous l'avez intitulé « Comment apprendre des erreurs des autres ». Donc vous êtes neurobiologiste au Centre INSERM CNRS de recherche en neurosciences de Lyon. Vous êtes avec nous en duplex. Quels sont d'abord les travaux que vous menez au sein de ce centre ?
Alors les travaux qu'on mène au sein du Centre de neurosciences de Lyon, c'est une ce qu'on appelle les neurosciences comparatives qui s'appuient à la fois sur ce qu'on connaît de l'animal, de l'enfant et de l'adulte humain pour essayer de mieux comprendre comment en particulier on apprend.
Comment vous êtes parti alors au départ autour de cette question apprendre des erreurs des autres ?
Parce qu'on est parti, et des psychologues depuis longtemps, on montrait que on n'apprend pas aussi bien de nos propres erreurs que l'on croit. Et en particulier, on pense toujours, a priori, que ce sont nos préférences qui guident nos choix et nos décisions. Et malheureusement, c'est pas toujours vrai. On n'a pas des préférences a priori pour tout. Donc, quelquefois, on a l'inverse. Et ce sont nos choix qui créent des préférences.
Aline.
Oui, comme par exemple, on pourrait penser que quand on se rend chez son concessionnaire pour acheter une nouvelle voiture, on fait peut-être pas ça tous les jours non plus, et que, mettons, vous vouliez acheter une voiture rouge, et elle est pas en stock, mais il y a du jaune. Hein, et le concessionnaire vous dit « Ah, mais cette voiture jaune est absolument faite pour vous. » Donc finalement, vous l'avez achetée. Et après ça, vous vous dites que vous préférez les voitures jaunes aux voitures rouges.
Qu'est-ce que ça dit donc justement Martine Meunier, cet exemple ?
C'est un mécanisme bien pratique parce que là, dans ce cas-là, si vous ressortez que pour une raison ou une autre, ce très bon vendeur vous a vendu une voiture jaune, ce qui est bien, c'est que vous allez vous mettre à préférer la voiture jaune.
Alors un exemple, vous le citez dans cet article, c'est le renard et les raisins. Fable de La Fontaine, on en a un petit extrait dans la voix de Michel Galabru, tiens par exemple.
Certains renards gascons, d'autres disent normaux, mourant presque de faim, vit au haut d'une treille des raisins mûrs apparemment et couverts d'une peau vermeille. Le galant lui fait volontiers un repas, mais comme il n'y pouvait atteindre, ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. Fit-il pas mieux que de se plaindre ?
Alors Martine Meunier, La Fontaine vous inspire aussi pour les neurosciences ?
Tout à fait, tout est dans la fable. Le renard, est, à partir du moment où il a décidé qu'il ne peut pas les atteindre, il aligne ses préférences sur son choix. Les raisins, savoureux quelques instants plus tôt, deviennent verts et pas dignes de lui.
C'est quoi le revers de la médaille, finalement, de cette affaire ?
Alors, ça, c'est une règle qui marche souvent, mais qui vient quand même à un prix, c'est qu'on a un petit peu tendance à s'enferrer dans nos propres erreurs, à cause de cette préférence pour notre choix, l'objet de notre premier choix.
Et c'est là que c'est intéressant d'aller voir chez les autres, la façon dont nous réagissons sur les erreurs de ceux qui nous entourent.
Voilà, parce qu'on se rend compte, alors dans cette expérience dont Aline parlait, où on a comparé des singes et des hommes, une fois qu'ils font une erreur, les singes la reproduisent 2 fois sur 3 derrière. Les hommes, 1 fois sur 2, c'est beaucoup quand même. Pour des choix qui étaient très simples, entre 2 objets, un qui cachait 20 centimes et l'autre non, ou pour les singes, un petit M&M, un petit bonbon au chocolat.
Ce qui est intéressant également, c'est que on peut dire aujourd'hui que c'est quelque chose qui est universel. C'est-à-dire que ce biais cognitif, ce biais dans la prise de décision, vous la retrouvez du Japon aux États-Unis en passant par le Nigeria, chez le petit enfant comme chez l'adulte, et comme vient de le dire Martine, chez les singes.
Pourquoi cet exemple également, vous citez l'erreur du jugement du Concorde, Martine Meunier ?
Alors, c'est un chercheur d'Oxford qui l'a baptisé comme ça parce qu'il a fait, il fait référence à l'entêtement avec lequel les gouvernements français et britanniques ont continué, après avoir choisi d'essayer de faire du Concorde un avion commercial, ont continué à investir contre toute raison et contre toute raison de rentabilité en particulier. Il n'y a pas que les gouvernements qui font cette faute, on le fait aussi quand on garde l'exemple de la voiture. Une fois qu'on l'a choisi, notre vieille voiture, souvent, là, répare alors que ça coûte beaucoup trop cher au lieu de la changer parce qu'on reste, on s'enferme dans ces choix-là. C'est ça l'erreur de jugement du Concorde. Mais nous aussi, on l'a fait.
Oui. Et donc, c'est plus bénéfique, effectivement, d'observer les erreurs des autres. C'est ce que vous nous dites.
Voilà, c'est là qu'il faut regarder nos préférences avec un petit peu de circonspection et puis aller jeter un œil sur ce que font les autres.
Comment vous avez démontré ça scientifiquement? J'ai cru entendre parler de macaques tout à l'heure.
Oui, ce sont des rhesus macaques avec qui nous avons un ancêtre vieux de 25 millions d'années. Donc c'est pour vous dire, quand Aline parlait de c'est un biais universel, c'est un vieux biais qui est ancré depuis très longtemps dans l'évolution. Et effectivement, on les a mis face à la même tâche et on a montré que là où ils n'arrivent pas à apprendre de leurs propres erreurs, si en revanche ils voient l'erreur d'un autre, mais les deux, singes et hommes, sont très bons à ce moment-là. Pourtant, la quantité d'informations, que ce soit vous qui faites l'erreur ou moi, c'est la même. Et les humains sont même très très bons parce qu'ils aiment bien, en plus, réussir après avoir vu un autre se tromper.
Voilà, ça je crois que c'est ce qui nous différencie de nos lointains cousins, les singes macaques, c'est que nous, quand on voit quelqu'un se tromper et qu'après on réussit, on a une espèce de jubilation qui nous fait progresser.
Alors après cette expérience sur les macaques, finalement, vous en avez tiré quelle conclusion et ça pourrait servir à quoi après ?
L'utilité, elle est pour nous tous dans la vie. Vous disputez pas avec votre frère ou votre sœur parce que vous avez acheté vous croyez avoir acheté la meilleure voiture des deux. Mais surtout, ce qui nous intéresse, nous chercheurs, c'est de se mettre au service peut-être des éducateurs et de l'éducation. Ouais. S'il y a une population qui a vraiment beaucoup de choix à faire, ce sont les éducateurs parce qu'il y a des tas de méthodes différentes. Et là, on peut simplement les aider en leur disant, si vous utilisez des méthodes où vous privilégiez la correction de l'erreur des autres plutôt que les enfants et à corriger leurs propres erreurs, ça peut les aider.
Alors ça concrètement, vous l'avez expérimenté également parce qu'on est dans ce domaine de la neuroéducation, hein, que ce sont vraiment les enseignements du cerveau pour les appliquer à des domaines comme l'éducation. Vous avez imaginé, je crois, la twictée avec un professeur des écoles, c'est ça ?
Donc, je ne l'ai pas imaginé, ce sont des pédagogues français qui l'ont imaginé eux-mêmes. Ouais. Et c'est justement parce qu'en échangeant notre groupe de neuroscientifiques, on échange de façon étroite avec des éducateurs. Mm-hmm. Donc ce sont des éducateurs qui nous ont dit « mais la twictée est une invention française, elle existe ».
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Et elle fait échanger, en fait une classe fait une dictée et l'envoie dans une autre classe qui parle français quelque part dans le monde pour que ce soit l'autre classe qui la corrige. Donc cette invention française, cette innovation française, la twictée, applique ce principe que l'on a démontré qu'il y a un peu plus de facilité pour les enfants à corriger les erreurs des autres. Ça peut être une des raisons pour lesquelles cette application apparemment marche très bien.
Allez Aline, pour terminer.
Non, simplement pour préciser que comme ça passe par Twitter, c'est pour ça que ça s'appelle la twictée, qui est très compliquée à dire, mais très prometteuse. Effectivement, on se rappelle tous les mauvaises vibrations qu'on avait quand nos professeurs à l'école nous disaient mais tu es nul, tu n'y arriveras pas. Et là, c'est vraiment une façon d'en sortir et on espère vraiment que l'éducation l'éducation nationale comprenne et regarde pour travailler avec les neuroscientifiques.
Voilà un exemple donc de recherche fondamentale qui pourrait aboutir sur des applications concrètes. Et c'est un article « Comment apprendre des erreurs des autres » Martine Meunier, que vous signez donc dans The Conversation France et qu'on retrouve sur le site theconversation.com. .fr, tout simplement. Merci beaucoup à vous, merci aux équipes de Lyon qui ont permis ce duplex. Et puis Aline Richard, on vous retrouve à la rentrée. Merci beaucoup.
Vite, tu penses une chose, tu penses son contraire. Tu passes ton temps à faire encore plus à défaire. Tu sens comme tout de toi ne prend plus la lumière. Tu sens comme tout de toi glisse sans fin vers la rivière dans le lit. D'ici dans la vie. D'ici tu rumines au sextant, tu te crois indigène. Mais tout est éboulé, fil chanté dans la plaine. Tous sont encore esclaves, tout est vain et cruel. Autant que tout t'emporte, rien ne tient le contre-courant dans la vie. D'ici, dans la vie. Tricéphale sous les caresses bleues. Tu cherches vent ta dos au cours des promenades. Tu vois la langue douce briser ce qui est beau. Je crois qu'il ne nous reste que la peau sur les os dans la vie. D'ici dans la vie. D'ici le cœur et le cerveau, petit alu de Lorraine, corolle de lumière, giroflée des moraines, ventricule du cœur qui crache dans l'artère, ma petite marmotte ne va pas t'engourdir tout l'hiver dans la vie. D'ici, dans la vie.
Jean-Louis Murat avec French Links. L'entretien que vous allez entendre maintenant avec l'ancien député travailliste britannique Chris Ryan a été enregistré hier matin avant l'annonce du meurtre de la députée Jo Cox, raison pour laquelle à aucun moment dans cette interview, Chris Ryan n'évoque la disparition de sa consœur.
Le club carré sur France Inter.
Imaginez un instant les députés français se mettant à pratiquer la méditation en suivant des cours de pleine conscience. Alors cette idée peut vous sembler complètement farfelue et pourtant elle est peut-être en train de prendre racine à l'initiative d'un ancien député travailliste qui a lui-même introduit la méditation au Parlement britannique. Il était mercredi à Paris pour rencontrer des parlementaires et les sensibiliser à cette pratique. Il est aujourd'hui avec nous, Chris Ryan, bonjour.
Bonjour.
À vos côtés se trouve Geneviève Hamlet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de l'ADM, c'est l'Association pour le développement de la mindfulness. C'est vous qui allez traduire cet entretien. La mindfulness, qu'est-ce que c'est exactement?
Mindfulness, je dirais.
Mindfulness, pardon. Oui. Qu'est-ce que c'est?
C'est en fait une qualité naturelle, je dirais, de l'esprit, cette présence attentive, mais qui se travaille aussi et qui se pratique grâce à des méditations spécifiques.
C'est ce qu'on appelle la pleine conscience.
Voilà, en français, la pleine conscience.
Chris Ryan, comment est née cette idée originale de mettre les élus anglais à la méditation?
Before I was a member of parliament,
Avant que je sois un membre du Parlement, j'étais enseignante.
Et
j'ai utilisé la méditation, ça n'était pas encore la pleine conscience à l'époque, avec des enfants de 9 à 11 ans. C'était il y a 30 ans. Et il y a 9 ans, j'ai découvert la pleine conscience et j'ai développé ma propre pratique personnelle. Et ensuite, il y a 4 ans, j'ai pensé que c'était le moment d'amener cela au Parlement britannique. Donc j'ai abordé l'université d'Oxford et ils ont délégué le professeur Mark Williams qui a enseigné deux députés qui ont apprécié la pleine conscience. Et ensuite, eh bien, 130 MP et 220 assistants ont suivi donc un cursus de pleine conscience depuis.
Donc vous êtes pratiquant depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous a motivé au fond pour promouvoir la méditation auprès des hommes politiques?
En tant que politicien qui est responsable donc d'une région très pauvre en Pays de Galles, j'ai pu voir beaucoup de malheurs, beaucoup de problèmes de santé mentale et un manque d'épanouissement. Donc, si c'était vrai, si ça a pu se répandre ainsi au niveau de la Grande-Bretagne, ce serait vrai aussi en France. J'ai vu donc tous les malheurs de cette région et comment la pleine conscience pouvait avoir un rôle pour diminuer ce malheur et aider aussi à ce que les mesures publiques puissent être florissantes. Et que ce soit au niveau des services de santé, des services d'éducation et aussi les lieux de travail.
Gandhi said, be the change.
Et donc, c'est ainsi que Gandhi a dit, soyez vous-même le changement que vous voulez voir. Et en suivant ce conseil, nous avons décidé d'établir un rapport sur la pleine conscience que nous appelons le rapport de la nation en pleine conscience, qui justement permettait d'établir des mesures publiques dans les secteurs de la santé, dans les secteurs de l'éducation et de pénitencier.
Alors aidez-moi à comprendre, parce que j'ai du mal justement à comprendre comment la méditation peut aider à lutter contre la pauvreté.
Une des initiatives que nous avons observées et dont nous nous sommes inspirés, c'est la pleine conscience appliquée sur des gens qui étaient au chômage depuis longtemps, donc qui avaient été pendant 6 mois au moins sans emploi. Ils perdent leur assurance, ils perdent leur énergie et leur élan, et en utilisant la pleine conscience, eh bien, on se rend compte que ça aide les individus à se connecter à nouveau avec eux-mêmes, avec leurs amis, et puis ensuite avec la société, ça leur redonne une forme d'assurance, ils sont plus à l'aise avec eux-mêmes, ça diminue leur stress. Et les statistiques ont montré qu'ils ont alors un plus grand succès à se rétablir dans un lieu de travail que les personnes qui n'ont pas suivi un cursus de pleine conscience.
Est-ce que des scientifiques ont pu travailler justement sur ces observations pour étayer aussi vos propos, Chris Rain?
Oui, il y a eu beaucoup d'études qui ont été effectuées dans le monde entier, en fait. La pleine conscience a été acceptée donc par le NHS, qui est le système de sécurité sociale en Angleterre, pour les épisodes répétés de dépression. Donc, dans le type le plus accentué de dépression, où ils ont eu 3 épisodes majeurs de dépression, et bien c'est là où il y a les meilleurs résultats. Et ça a été prouvé donc avec des études approfondies. Qui ont été suivis depuis 2004, ensuite 2007 et qui a été confirmé en 2009. Donc, le professeur Mark Williams, justement, s'est attaché à faire prouver par la science donc, les effets.
Chris Rain, quand vous êtes arrivé auprès de vos collègues parlementaires et que vous leur avez dit bah, « Tiens, je vous propose de pratiquer la méditation », mais comment est-ce que vous avez été reçu? Parce qu'on imagine la même chose en France et évidemment la façon dont on peut percevoir ce type de pratique.
Les politiciens sont arrivés de 3 directions. Il y en avait certains qui voulaient eux-mêmes retrouver un équilibre car ils subissaient beaucoup de stress. D'autres voulaient s'épanouir plus. Et puis d'autres membres du Parlement venaient pour voir à partir du point de vue des mesures publiques, justement dans les services de santé, dans les services d'éducation et des prisons. Donc il y avait vraiment une variété de raisons et de motivations pour que ces députés soient attirés attiré par la pleine conscience.
Donc vous avez convaincu des députés et des lords. Concrètement, comment ça s'est passé? Alors, ils se sont mis à une pratique, il y a des cycles qui ont été organisés. Expliquez-nous.
They developed their own personal practice.
Ils ont en effet développé leur propre pratique personnelle.
And for about 18 months.
Et donc pendant 18 mois.
And then we decided to turn this personal
et ensuite,
practice
nous avons décidé que
politics.
Cette pratique personnelle pouvait s'appliquer au niveau des mesures publiques
basis.
Et au niveau politique.
Left
donc,
right,
tout parti confondu. Donc là, aussi bien la gauche que la droite ont collaboré sur ce projet pour une amélioration au niveau national.
Donc la méditation n'est ni de droite ni de gauche, alors.
So meditation is neither right or left.
No, and at the launch of this document.
Non, et lorsque nous avons lancé ce document, ce rapport, nous avions un ministre conservatif, Nicky Morgan, pour l'éducation. On avait aussi un ministre de la santé conservateur et un ministre donc des sports conservateur et qui tous se sont exprimés. Et en fait, ce qui était très inhabituel pour des politiciens, c'est qu'ils sont restés pendant toute l'heure de la présentation.
Est-ce que David Cameron lui-même s'est mis à la méditation, Chris Ray?
Non, David Cameron didn't attend our sessions.
Non, but David Cameron n'a pas suivi nos sessions.
His advisors saw John
ses Kabat-Zinn conseillers, en fait, ont vu John Kabat-Zinn lorsqu'il est venu en 2013, donc en Angleterre. Et donc, John Kabat-Zinn, professeur Layard et professeur Mark Williams sont allés à 10 Downing Street pour parler aux conseillers de Cameron.
Et David Cameron a
aussi développé des mesures de bien-être sur le territoire britannique. Et il croit, comme je crois, moi aussi, que le succès de la nation n'est pas en lien seulement avec les aspects financiers, mais c'est aussi la qualité de vie. Et c'est ainsi qu'on espère, donc, effectivement, à travers cette initiative, tout parti confondu, de développer des aspects de plus grand bien-être.
Oui. Alors, Chris Ryan, vous étiez donc en France mercredi pour rencontrer quelques parlementaires. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir que la classe politique française a été facile à intéresser, à sensibiliser à cette question de la méditation?
Lorsque j'ai rencontré mercredi dernier des politiques françaises, j'étais très ouvert, à l'aspect scientifique des recherches sur la pleine conscience. Et ils aimeraient en savoir plus. Et j'espère qu'en septembre, je pourrai revenir pour faire de plus grandes présentations. Mais ça n'est pas seulement en France que les politiques sont intéressés par cela. Nous avons aussi établi la pleine conscience en Hollande, en Angleterre, au Pays de Galles. Et puis Tim Ryan, qui est donc parlementaire au Congrès américain, a établi cela aux États-Unis aussi. Et puis nous avons des contacts au Canada, en Australie, en Allemagne et aussi à l'Union européenne.
Mais est-ce que l'idée, c'est que, comme en Angleterre, des députés français puissent suivre des formations autour de la pleine conscience?
Si c'est ce qu'ils veulent faire pour développer leur propre pratique personnelle, oui, bien sûr. Mais s'ils ne veulent pas le faire, alors simplement de vraiment regarder ce qui se passe au niveau des sciences, ce qui se passe au niveau de cette pratique. Donc, ce n'est pas seulement au niveau de la santé en Angleterre, mais aussi aux États-Unis, les marines ont utilisé donc la pleine conscience depuis 2009. À Melbourne, en Australie, l'université Monash, toute l'université a utilisé la pleine conscience depuis des années. Nous utilisons la pleine conscience aussi dans les écoles anglaises pour enseigner des enfants qui ont 7 ans. Et donc, de vraiment regarder quelles sont les meilleures pratiques qui sont effectuées dans le monde et de voir ce qui correspond à votre pays, au contexte dans lequel vous êtes et à votre population. Il y a vraiment des sujets massifs là, car en Angleterre, eh bien, un tiers des jeunes personnes entre 15 et 25 ont des problèmes psychiatriques. 90% des prisonniers en prison ont des problèmes psychiatriques. Et donc, le traitement essentiel qu'on leur donne sont les antidépresseurs. Ainsi, le nombre a augmenté de 500%, de 9 millions à 90 millions d'utilisateurs. Et à côté de ça, on a la pleine conscience qui a été prouvée scientifiquement et qui n'a pas d'effets secondaires et qui est beaucoup plus bon marché que les traitements médicamenteux. Et qui plus est, le plus important, c'est que ça rend l'individu responsable de son propre corps et de son propre esprit.
Chris Ryan, vous n'êtes plus député aujourd'hui, donc vous avez encore plus de temps pour méditer au fond. C'est une bonne chose pour vous, non ?
Every cloud has a silver lining.
Oui, car tout nuage a son éclat argenté.
Ouais, et vous consacrez donc beaucoup de temps maintenant à sensibiliser donc les politiciens français, mais européens, comme on l'entendait, justement à cette pratique. Geneviève Hamelet, vous êtes donc présidente de l'Association pour le développement de la mindfulness, instructrice MBSR. Alors c'est un programme de réduction du stress basé justement sur la pleine conscience. Chris Rain évoquait John Kabat-Zinn, c'est un médecin clinicien américain qui a introduit justement le MBSR il y a une trentaine d'années aux États-Unis.
Oui, c'est un docteur en biologie moléculaire, en fait, qui venait du MIT et qui a introduit à l'Université de Massachusetts, ce programme spécifique MBSR basé sur la pleine conscience, programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience, en 79 déjà. Ouais.
Alors, c'est quoi la pleine conscience? Parce qu'on en parle depuis le début de cet entretien. Au-delà de la méditation, on parle de la pleine conscience.
Oui, encore une fois, c'est une qualité naturelle que nous avons tous. Là, nous sommes dans une présence attentive, là, en ce moment, donc avec une certaine qualité de concentration, de focalisation et de présence, mais qui, très vite, du fait de toutes les sollicitations et les stimuli que l'on peut avoir, se perd. Et donc, c'est une qualité qui s'entraîne. Et justement, lorsqu'on parlait de déficit attentionnel chez les enfants, etc., eh bien, c'est justement quelque chose qui peut aider considérablement à être beaucoup plus présent et aussi à réintégrer le corps d'une certaine façon, à faire en sorte que corps et esprit puissent fonctionner ensemble, qu'il n'y ait plus cette dissociation donc, dans laquelle on est très souvent.
Ouais, et c'est une pratique laïque, c'est important aussi de le préciser, hein.
Oui, alors c'est une pratique qui a ses origines, ses racines dans une tradition orientale, en l'occurrence le bouddhisme, mais le bouddhisme dans son aspect d'investigation scientifique et de psychologie bouddhiste, donc qui est complètement dénué de tout aspect religieux qui peut être présent aussi dans le bouddhisme, et c'est ce qui fait que John Kabat-Zinn, étant méditant lui-même à l'époque et en même temps percevant les effets que ça pourrait avoir puisqu'il naît du monde de la médecine, eh bien a compris que ça pouvait être utilisé par tout un chacun, quelle que soit sa foi religieuse ou le fait qu'on n'ait pas de pratique spirituelle. Et comme il venait de ce monde scientifique, c'est aussi ce qui fait qu'il a compris très vite qu'il fallait tout de suite aller investiguer avec la science occidentale pour voir réellement quels pouvaient en être les effets. C'est ce qui fait que ça s'est développé dans le monde de cette façon.
On a beaucoup parlé de la dépression, du traitement de la dépression. Quelles sont les autres pathologies qui peuvent être concernées justement par la méditation de pleine conscience? Parce qu'il y a beaucoup d'études scientifiques dans de nombreux domaines autour de cette pratique.
Oui, en fait, là, maintenant, il y a eu une sorte d'explosion, en fait, des recherches à partir de la fin des années 90. Au début, il y a eu quelques recherches, donc, qui étaient autour des douleurs chroniques, parce que c'était ce que les collègues de John Kabat-Zinn lui envoyaient, en fait, là où il pouvait rien faire au niveau de la médecine. Et puis, au niveau du psoriasis, au niveau du cancer. Mais après, ça s'est élargi énormément. Et à la fin des années 90, on voit un pic énorme. Et je pense que dans l'année 2015, d'après, donc, les publications aux États-Unis, il y a eu 700 recherches qui ont été faites simplement dans l'année 2015 et donc qui touchent énormément de secteurs. Ouais. Donc en France, on est encore au stade naissant, mais néanmoins, donc à Strasbourg, dans le service d'exploration fonctionnelle du professeur Génie, donc il y a une recherche auprès des femmes atteintes de cancer et en fin de traitement. Il y a aussi à Gustave Roussy des études sur les troubles du sommeil chez des patients atteints de cancer.
À Lyon aussi, des études qui sont menées également régulièrement sur la méditation et ses effets. Chris Rain, merci beaucoup. En tout cas, on était ravis d'écouter votre expérience tout à fait originale. On espère que vous allez réussir à convaincre nos hommes politiques. Ça ne pourra de toute façon ne leur faire que du bien de pouvoir respirer tranquillement au quotidien. Et puis, vous allez revenir donc en septembre pour de nouveaux contacts avec les parlementaires français. Merci beaucoup.
Merci.
Et Geneviève Hamelet, merci beaucoup également à vous. Le site de l'ADM, l'Association pour le développement de la mindfulness, est en lien sur La Tête au Carré. Merci beaucoup. nos amis Bee Gees avec Staying Alive.
La tête au carré. Le club.
Guillaume D'Alessandro, vous êtes journaliste et auteur d'un article, long article, qui est paru dans le trimestriel Oui Demain et qui a retenu notre attention. Son titre, J'ai été un blaireau, une loutre, un cerf. Article qui raconte les expériences de Charles Foster, qui est cet homme assez original.
Charles Foster, c'est un garçon qui ramasse le long de la route à 11 ans un merle mort et qui instantanément l'empaille. Il va devenir taxidermiste, il va faire des études de vétérinaire, il va devenir également professeur de droit et chasseur émérite de cerfs. Donc toute une vie qui a été très marquée par un rapport très intime à la cause animale. Et à un moment de sa vie, il s'est aperçu que 90% des apparitions sensorielles de l'homme étaient communs à ceux des animaux terrestres. Par exemple, la vision, l'odorat, le goût. Simplement, on l'utilise pas de la même manière. L'être humain, il va utiliser principalement la vue. Moi, personnellement, je mesure 1m70, donc ma réalité commence à 1m65 de hauteur.
Oui. Ce n'est pas le cas d'un blaireau, par exemple.
Lorsque vous devenez un blaireau, vous devenez un animal qui voit la réalité à 5 cm de hauteur. Donc forcément, l'échelle de votre monde change. Et quand Charles Foster décide de passer tout un été dans un terrier avec son fils, en rampant pour aller chercher sa nourriture essentiellement à base de vers de terre...
C'est ça. C'est comme ça que commence l'article. Hein.
Tout à fait.
Ce monsieur trouve absolument succulent les vers de terre.
Ah, mais ça, j'en appelle à la grande gastronomie française. Oui. Tous les amateurs de vin savent que ce qui fait le goût du vin, ça n'est pas la vigne, ça n'est pas le raisin, mais c'est le terroir.
Oui.
Et naturellement, le vers de terre, c'est la même chose. En fonction du terroir, il aura des saveurs différentes, ce qu'un blaireau raffole et ce que Charles Foster découvre.
C'est ça. Les vers de terre de la région de Chablis en France, lorsqu'on les mâche, possèdent une longueur en bouche très minérale. Les vers de Picardie ont un goût de moisi, comme un tas de bois en train de pourrir. Et ceux que l'on trouve dans le Kent sont frais et naturels. Ceux du Somerset rappellent le vieux cuir et la bière brune, et leur saveur change avec les saisons. Voilà, il fallait le faire quand même, une déclinaison sur les vers de terre de cette manière.
Il raconte même que son fils qui l'accompagne dans le terrier qu'ils habitent pendant un été dans le Pays de Galles, finit par reconnaître même l'odeur des souris et il a quelques préférences. Par exemple, les vers de terre marron ne sont pas de son goût, ils sont un peu amers, mais ceux qui sont un peu plus pâles ont un goût de noix.
Ouais. Ceux qui se prennent pour des animaux, c'était l'idée aussi de ce film The Lobster, souvenez-vous.
Avez-vous lu notre dépliant ?
Oui, je l'ai lu.
Parfait. Le fait que vous soyez transformé en animal si vous ne tombez pas amoureux pendant votre séjour n'est pas quelque chose qui doit vous perturber ou vous déprimer. Je conçois que cette conversation puisse être un peu désagréable, mais il est de mon devoir de vous préparer psychologiquement à toute éventualité. Savez-vous quel animal vous voudriez être si vous finissez seul ?
Oui, un homard.
Pourquoi un homard ?
Parce que je sais que les homards vivent plus de 100 ans. Ils ont le sang bleu, comme les aristocrates. Et ils peuvent se reproduire toute leur vie. Et aussi, j'aime la mer, passionnément. Adolescent, j'étais assez bon en ski nautique et en natation.
Je dois vous féliciter. La plupart des gens choisissent le chien. C'est pour ça que le monde est rempli de chiens. C'est rare qu'on choisisse un animal original. C'est pour ça qu'ils sont menacés d'extinction. Le homard est un excellent choix.
Voilà, Charles Foster. Il aurait pu se prendre pour un homard. Hein. C'est pas le choix qu'il a fait, mais en tout cas, il y avait de l'idée.
En tout cas, il s'est pris pour un renard. J'ai appris avec stupéfaction qu'il y avait 600 000 renards sauvages dans la ville de Londres, qui s'alimentent essentiellement à base de poubelles, ce qu'évidemment, Charles Foster s'est empressé de faire.
Ouais, alors, il raconte tout ça, ses expériences dans un livre, Being a Beast, qui est paru en janvier dernier, mais qui, malheureusement, n'a pas été traduit en français. Il faut expliquer qu'en Angleterre, il y a une vraie tradition naturaliste, justement, de ces gentilshommes un peu fous quand même, très originaux, mais qui ont aussi un regard scientifique sur les choses, hein.
Absolument. Il faut savoir que dans le monde anglo-saxon, c'est eux qui ont inventé la notion de parc naturel régional, par exemple. Et ça, dès la fin du 19e siècle, alors qu'en France, le premier parc naturel régional, la Vanoise, c'est 1963. Donc, ils ont un rapport beaucoup plus émotionnel à la nature, les anglo-saxons. Ils n'ont pas cette volonté absolue de domestiquer la nature, mais plutôt essayer
de la limiter
pour entrer en quelque sorte en intimité avec cette nature. Donc, dès 1927, vous avez Tarka la loutre qui raconte l'autobiographie d'une loutre à la première personne par l'auteur Henry Williamson, qui a connu un énorme succès dans le monde anglais et qui n'a jamais été traduit en France, par exemple.
Pourquoi on ne traduit pas ça en France ? Ça n'intéresse pas les Français ? On n'a pas du tout la même sensibilité par rapport à la nature et au monde animal ?
Je crois qu'il y a une volonté cartésienne de domestiquer la nature dans notre mentalité, alors que les Anglais ou les Américains ont une approche beaucoup plus émotionnelle. Mm-hmm. Songez à ce film In the Wild avec ce naturaliste qui a essayé de vivre comme un ours et qui malheureusement en est décédé. Oui. Je crois qu'ils ont une volonté, si vous voulez, d'essayer de... pas de passer la barrière des espèces, parce que là on serait évidemment dans le délire, mais en tout cas d'essayer d'avoir un ressenti de la réalité qui soit en quelque sorte au-delà de l'espèce humaine.
Donc Charles Foster va se prendre, par exemple, vous l'avez dit, pour un blaireau, donc il va creuser son terrier pendant tout l'été, avec son fils, hein, parce qu'il l'accompagne sur le terrain.
Les blaireaux sont grégaires, donc ouais. Dans la psychologie d'un blaireau, c'est inconcevable qu'il n'ait pas ses enfants avec lui.
Ouais, il a 8 ans, hein, son fils en l'occurrence.
8 ans, effectivement.
Il faut s'ennuyer beaucoup aussi, c'est ce qu'il raconte dans le texte, hein, quand on est un blaireau, parce qu'évidemment on passe sa vie à somnoler quasiment. Ouais. Donc c'est ce qu'il a fait aussi.
Évidemment, c'est-à-dire ouais. qu'en fait, un blaireau chasse la nuit et chasse pendant une période de temps assez limitée. Il va chasser 3-4 heures jusqu'à avoir sa ration alimentaire. Donc en réalité, le blaireau passe sa vie à dormir. C'est peut-être une analogie qu'on peut avoir avec l'espèce humaine.
Voilà, c'est ça. Alors quand on est une loutre, justement, comment ça se passe? Parce que là, il faut vivre quand même beaucoup dans l'eau, ce qui est plus embêtant quand on est un être humain, non?
Alors Charles Foster s'équipe d'une combinaison de plongée et il fait deux constatations. Premièrement, la loutre dort 18 heures par jour, ce qui visiblement pour cet actif est vraiment oui. une contrainte. Et elle ne chasse que pendant 6 heures, mais là avec une énergie frénétique parce qu'elle doit avoir, pour ses capacités énergétiques, jusqu'à 20% de poids de son corps en aliments chaque jour. Oui. Ce que naturellement Charles Foster va essayer de reproduire. Donc 20% de son poids pour
c'est
un homme...
C'est épouvantable.
Oui, 95 kilos et en 6 heures. Donc ouais. Charles Foster a calculé qu'il lui fallait ingurgiter 88 McDo sur 6 heures.
Il l'a fait ?
Il a essayé. Je pense qu'il a eu un point où il a dû s'arrêter certainement, ouais. puisqu'il devait manger un McDo toutes les 4 minutes ouais. pour simuler le régime alimentaire de la loutre.
Voilà, donc évidemment, chose absolument impossible à faire, mais en tout cas très amusante dans l'idée. Quand on se prend pour un renard roux, là, Guillaume d'Alessandro, il faut faire quoi ? Alors manger dans les poubelles londoniennes, c'est ça ?
Il faut surtout être invisible. Parce ouais. que le renard roux, c'est cet animal sauvage, en fait, personne ne le voit. C'est un animal forcément craintif et furtif. Donc, il faut être furtif. Et la solution qu'a trouvé Charles Foster pour être furtif, c'est de s'habiller comme un clochard. Parce qu'évidemment, personne ne regarde la misère les yeux dans les yeux. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'il a décidé de disparaître dans la ville, en se cachant dans les buissons avec des vêtements misérables, de manière à ce que, finalement, les gens détournent son regard et ne s'aperçoivent pas que ce terrible prédateur des poubelles, qui correspond au nom de Charles Foster, est à l'affût de leur saucisse. Ouais. Usé.
Mais alors, il a survécu comment? En mangeant vraiment dans Absolument. Les poubelles? Pendant combien de jours ça a duré?
Ça se compte plutôt en semaines. C'est-à-dire ouais. que... ça,
il a fait le renard pendant plusieurs semaines, il a fait en le mangeant renard. Pendant plusieurs semaines ce qu'il trouvait dans les poubelles.
Absolument. Ouais. Absolument.
Et dans quel état il s'est sorti de cette expérience?
Il le mentionne à peine. Je pense qu'il a été content de redevenir humain pendant quelques semaines pour rééquilibrer son régime alimentaire.
Ouais. Est-ce qu'il a d'autres idées par la tête? Parce que c'est vraiment un scientifique brillant, quelqu'un plutôt austère d'ailleurs. Vous avez été en contact avec lui par mail justement pour oui. écrire cet article. Qu'est-ce qu'il va faire de ces expériences, outre le fait qu'il les écrit et qu'il a beaucoup de succès avec ça en Angleterre?
Si vous voulez, c'est un homme qui a été tellement fasciné par la nature qu'il a mélangé un petit peu toutes les facettes. C'est-à-dire qu'il a été à la fois le sauveur en étant vétérinaire et le chasseur en se livrant à la chasse au grand gibier. Mm-hmm. C'est un personnage qui est vraiment, je pense, qui cherche une osmiose. Donc je vois aucune raison pour laquelle il cesserait ça. Mais pour vous donner un exemple amusant, cet homme qui a tué une quantité de cerfs assez considérable s'est ouais. prêté au jeu de la traque, mais cette fois-ci dans le sens de la proie. Et il a demandé à ses amis chasseurs et leurs chiens surtout ouais. de le traquer, voilà.
Bon, ça c'est bien fini évidemment puisqu'il est toujours parmi nous et on peut découvrir donc son témoignage extraordinaire sous votre plume, Guillaume d'Alessandro. J'ai été un blaireau, une loutre, un cerf dans les pages de Oui Demain. C'est un trimestriel de grande qualité qu'il faut découvrir et qui est actuellement dans les kiosques. Merci à vous.